10, c'est la France Bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, dans la France Bouge, on parlera musique. Pour le moment, place à l'info, il est midi et demi. Et l'heure de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble, comme tous les jours, jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce vendredi 7 août.
Pour les visites, c'est chaud, c'est trop chaud. On n'est pas bien. On fait avec, hein. On va chercher la fraîcheur cet après-midi dans la vallée du Tarn.
La France en surchauffe, alerte canicule dans la moitié des départements. On pourrait flirter avec les 40 degrés par endroit. Nous serons sous le soleil d'Albi dans le Tarn dans un instant avec notre correspondant Benjamin Peter. Une canicule qui suscite la vigilance des inspections du travail. Reportage sur un chantier du bâtiment où des inspecteurs vérifient le respect des règles. Et puis nous verrons avec Virginie Salmen que la multiplication de ces jours de chaleur n'est pas sans incidence sur la santé, notamment pour les seniors. Le Liban, manifestation contre la corruption dispersée à coups de gaz lacrymogène hier soir à Beyrouth.
Mes rêves étaient d'avoir un emploi et un revenu stable, d'avoir une maison, de vieillir ici. Je n'ai pas le choix maintenant, je dois partir.
De plus en plus de jeunes dans le pays n'ont plus qu'une envie, partir. Dans ce journal également, le protocole sanitaire pour la prochaine rentrée scolaire, l'étau se desserre. Nouvelle aggravation de l'emploi au deuxième trimestre, nous dira Olivier Samin. Et puis le football, la Ligue des Champions, Lyon qui défie la Juventus de Turin. Ce soir.
On a joué quelques matchs et je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour faire le boulot.
Après la victoire 1-0 à l'aller, le Lyonnais Memphis Depay est plutôt confiant. Et puis la météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour à tous, et oui nous y sommes, pic de chaleur très intense du sud-ouest au Pays de la Loire ce vendredi, devenant un épisode caniculaire durable sur quasi toute la France, avec des nuits chaudes. Et cet après-midi sera la plus chaude de la semaine justement, avec des maximales entre 37 et 40, très localement 41 à 42, notamment des Pays de la Loire au Poitou-Charentes, jusqu'en Aquitaine et une partie de l'Occitanie.
Merci Valérie, on vous retrouve un peu avant le journal de 13h. Voilà pour le sommaire, place à l'actualité.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La moitié de la France, je vous le disais, est donc placée en vigilance orange canicule à partir d'aujourd'hui. 45 départements du nord au sud, des Flandres à l'Occitanie, en passant par la région parisienne et la région centre. En fait, seules les côtes atlantiques et méditerranée devraient être épargnées par cette vague de chaleur. Alors on ne dépassera peut-être pas le record de 46 degrés qui avait été enregistré l'an dernier, mais la chaleur s'installe bel et bien. Illustration dans le département du Tarn. Vous êtes ce midi, Benjamin Peter, dans cette belle ville d'Albi avec des habitants et des touristes qui affrontent déjà des températures supérieures à 30 degrés.
Oui, avec un mercure qui ne cesse de grimper d'heure en heure et sur le parvis très minéral de la cathédrale Sainte-Cécile où je me trouve, je peux vous dire qu'il fait déjà très chaud et pour ceux qui découvrent la région comme Didier, c'est un choc. Il faut dire que lui arrive de la Manche.
Pas trop habitué. C'est pour les visites, c'est chaud, c'est trop chaud. On n'est pas bien. On fait avec, hein. On va chercher la fraîcheur cet après-midi, dans la vallée du Tarn.
Beaucoup ont choisi de visiter la ville ce matin, aux heures les moins chaudes. C'est le cas d'Anissé et Julie qui ont prévu un programme beaucoup plus frais et plus ludique pour cet après-midi.
On va à la piscine. On va tous à la piscine tout à l'heure.
Ça se passe plutôt bien et du coup, oui, on va privilégier la balade le matin et l'après-midi piscine, quoi. Prendre un peu le frais.
J'ai croisé aussi quelques téméraires, certains diraient même inconscients, comme Yves qui est parti courir dans la matinée, mais sous ce soleil, le retour est un peu difficile.
Je suis parti assez tôt ce matin.
Ouais.
Et puis là, je rentre, hein, j'en ai pour 500 mètres à rentrer chez moi, donc c'est en fin de course. Et le long des berges, là, de l'échappée verte, c'est super agréable et c'est frais. Il faut adapter son rythme, mais je ne partirai pas faire ça à 14h, il faut faire attention.
Voilà, alors tout autour de moi, on voit peu à peu les volets se fermer pour préserver la fraîcheur, parce qu'on s'attend à dépasser tout de même les 38 à 39 degrés en milieu d'après-midi.
Merci Benjamin Peter à Albi pour Europe 1. Alors tout le monde n'a pas la chance de profiter de la fraîcheur de la splendide cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. En plein mois d'août, beaucoup de salariés risquent de souffrir de la chaleur, ce qui entraîne une vigilance maximum des inspections du travail, notamment sur les chantiers du bâtiment, pour contrôler que les règles sont bien respectées. Reportage, Élise Dangean.
Nouveau contrôle sur ce chantier déjà visité il y a 2 semaines par Laurent, inspecteur du travail dans les Hauts-de-Seine. Et à l'époque, on ne peut pas dire que les installations étaient au point, surtout en pleine épidémie.
Pas d'eau, pas de savon, pas de vestiaire, pas de toilette.
Et avec la canicule, pas question pour Laurent de laisser passer le moindre détail.
Donc ici, c'est le lavabo pour les personnels de chantier.
Voilà. Il teste tout.
Il n'y a pas de lumière.
mais semble finalement plutôt satisfait des explications de la maître d'œuvre.
Là, on a des suie-tout, on a une personne qui passe 3 fois par jour, matin, midi, soir.
D'accord.
Pour faire ménage de désinfection.
C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a le sentiment qu'on est un peu plus pris au sérieux quand on rappelle ce type de règles.
Petit rappel à l'ordre toutefois concernant les bouteilles d'eau achetées par les ouvriers eux-mêmes alors que c'est à l'entreprise d'en fournir. Et une mauvaise surprise, en montant dans les étages, les garde-corps ne sont toujours pas aux normes.
Pour ceux qui réalisent les planchers terrasses, toute la journée au soleil, si on fait un malaise à ce niveau-là, il y a un risque de chute qui est aggravé. Donc ça fera l'objet d'un rappel.
D'un rappel puis probablement d'une sanction. En attendant, Laurent prévoit déjà une troisième visite surprise.
Bon courage à vous, à la prochaine.
Élise Dangean, alors on l'a tous observé, hein, cette évolution des pics de chaleur à 35 degrés. Dans les décennies précédentes, ça n'arrivait environ qu'une dizaine de jours par an. Aujourd'hui, on en est déjà à 30 ou 40 jours par an au-dessus des 35 degrés. Et la question qui se pose, Virginie Salmen, c'est de savoir si cela a des conséquences sur la santé, notamment pour les seniors.
Vulnérabilité à la chaleur, ça commence à 65 ans chez les femmes, 75 ans chez les hommes, selon le professeur Jean-Louis Sanmarco, médecin de santé publique. Et il insiste, le risque, c'est le décès lors d'un pic de chaleur. Pour les personnes qui ne transpirent plus, il existe pourtant une solution très simple.
Ça consiste à mouiller sa peau, de préférence avec un brumisateur sur les mains et les avant-bras et des myriades de petites gouttelettes d'eau. Et pour que cette évaporation se fasse correctement, vous faites un courant d'air, ça remplace la transpiration.
Et avec ces vagues de chaleur qui se multiplient, ce sont les plus fragiles, s'ils ne respectent pas ces gestes simples, qui risquent de succomber. Et comme un millefeuille, chaque nouvelle canicule peut fragiliser une autre couche de la population des seniors.
Midi 36, la suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Face à l'augmentation des contaminations au coronavirus, Emmanuel Macron annonce la tenue d'un nouveau conseil de défense la semaine prochaine. Les derniers chiffres inquiètent les autorités et de nouvelles recommandations pourraient être publiées. Le gouvernement, qui vient de mettre au point le protocole sanitaire pour la prochaine rentrée scolaire, et Victor Delande, à ce stade, on s'achemine vers un vrai assouplissement des règles.
Oui, le mot d'ordre est clair, rien ne doit empêcher une reprise des cours pour tous les élèves à partir du 1er septembre prochain. Et la grande nouveauté de ce protocole sanitaire, c'est la fin de la distanciation physique dans les salles de classe, à la bibliothèque et dans tous les autres espaces clos. Néanmoins, les établissements devront s'organiser à la rentrée de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. De même, la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire. En contrepartie de ces assouplissements, le masque sera obligatoire pour tous les élèves de plus de 11 ans, dans les classes comme à l'extérieur, ce qui veut dire que tous les élèves, à partir de la 6e, devront désormais porter un masque. Dans ce nouveau protocole sanitaire, 2 autres nouvelles règles sont à signaler. Fini le port du masque pour les enseignants en maternelle, mais uniquement en maternelle. Enfin, l'accès aux jeux, aux bancs et aux autres espaces collectifs extérieurs sera autorisé. Il reste tout de même une inconnue pour la rentrée. Le nouveau protocole sanitaire ne précise pas dans quelles conditions se prendront les repas à la cantine. Un lieu pourtant où les collégiens et les lycéens enlèveront leurs masques sans que la distanciation d'un mètre ne soit forcément possible.
J'ajoute que le protocole est revu également pour la rentrée des universités et des grandes écoles. Les étudiants pourront retourner en cours sous réserve de respecter des règles de distanciation strictes et bien sûr le port du masque.
Europe 1.
On marque une pause et dans un instant, retour sur la prise d'otage qui s'est achevée sans violence hier soir dans une banque du Havre. Et puis nous serons au Liban avec l'enquête sur l'explosion du port qui progresse. Et nous retrouverons notre envoyé spécial Johanna Chabas qui est allée à la rencontre d'une jeunesse libanaise désabusée qui n'a plus qu'une envie, quitter le pays. A tout de suite.
Il est 12h39, votre journal de la mi-journée. La suite sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Après 6 heures d'angoisse, la délivrance en fin de soirée pour les derniers otages qui étaient retenus dans une agence bancaire du Havre hier soir. L'homme armé s'est finalement rendu sans violence. Alors on s'interroge sur les vraies motivations de ce preneur d'otages, mais on découvre, Guillaume Billet, qu'il n'en était pas en fait à son coup d'essai.
Non, c'est un récidiviste de la prise d'otages puisqu'il avait mené une attaque similaire il y a 7 ans, en 2013, dans une agence CIC à Paris, quasiment à la même heure, un peu avant 17h, il avait fait irruption dans la banque, armé. Et exactement de la même manière, il avait accepté de négocier avec la BRI et de relâcher un à un ses otages. À l'époque, il avait passé à peine 2 mois en détention provisoire, puis il a été jugé en 2016, d'après nos informations, condamné à 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve. Il avait été placé sous bracelet électronique. Son geste en 2013, c'était pour attirer l'attention des médias. Il réclamait alors un logement social pour lui et son fils handicapé. Hier, c'est pour des raisons encore assez floues qu'il est repassé à l'acte, affirme le procureur du Havre, François Gosselin.
C'est quelqu'un qui était connu, et notamment connu pour un passé psychiatrique assez lourd. Donc après, on verra quels étaient véritablement ses ressorts et ses motivations, mais ses revendications, si l'on peut dire, sont quand même assez imprécises. Et on verra la manière dont il pourra s'exprimer auprès des enquêteurs.
Ce suspect de 34 ans, natif du Havre, est actuellement en garde à vue. Son penchant pour l'islam radical lui avait valu ces dernières années d'être inscrit au fichier des personnes radicalisées. Mais d'après nos informations, si les services de renseignement locaux gardaient un œil distant sur lui, c'était surtout en raison de ses troubles psychiatriques.
Merci Guillaume Billet. Trois hommes ont été mis en examen, dont deux pour violence aggravée, après l'agression de dimanche dernier dans une laverie de Soissy sous Montmorency dans le Val-d'Oise. Il s'en était pris, vous le savez, à un client à coup de bâton parce que celui-ci leur avait demandé de porter un masque. Et puis le chauffeur routier qui a été interpellé mardi près de Lens après la mort d'un père de famille percuté par un camion a été mis hors de cause. Un autre chauffeur de la même compagnie de transport a été interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Ça ne s'améliore pas sur le front de l'emploi dans le contexte, bien sûr, de la crise sanitaire. Le deuxième trimestre de l'année 2020 a vu la destruction de près de 120 000 emplois dans le secteur privé. La seule note positive, Olivier Samin, c'est le rebond de l'intérim.
Oui, l'intérim qui avait plongé de plus de 40% au premier trimestre, avec près de 320 000 emplois détruits, s'est remis à créer des emplois au deuxième trimestre. 108 500 créations nettes. Le rebond a coïncidé avec le déconfinement à partir de la mi-mai. Et il s'est amplifié au mois de juin, sans toutefois revenir au niveau qui était le sien auparavant. On reste très en dessous. Mais ce qu'on retient surtout des chiffres publiés ce matin par l'INSEE, c'est la poursuite des destructions d'emplois hors intérim. Le mouvement s'amplifie d'ailleurs par rapport au premier trimestre. Il y a eu au total 228 000 emplois détruits entre avril et juin dans le secteur privé, principalement dans les métiers de service. L'industrie, elle aussi, a vu ses effectifs diminuer, mais dans de moindres proportions, à la différence du secteur de la construction qui, lui, s'est remis à créer des emplois au deuxième trimestre, plus 3 700 emplois, dit l'INSEE, et se retrouve pratiquement aujourd'hui à son niveau d'avant-crise.
Merci Olivier Samin. Et puis autre indicateur décevant pour l'économie française, le déficit commercial qui se creuse fortement au deuxième trimestre pour dépasser les 20,4 milliards d'euros. C'est presque 7 milliards de plus que sur les trois premiers mois de cette année. Depuis la crise du Covid, on a vu que des milliards d'euros de pertes s'accumulaient pour les grandes entreprises. Total, Renault, Airbus, ArcelorMittal, nos confrères des Échos chiffrent ce matin à 146 milliards d'euros les pertes pour les grandes entreprises du CAC 40. Et à l'inverse, dans ce marasme, eh bien, il y a des entreprises qui affichent une santé presque insolente. C'est le cas de Nintendo, le géant japonais des jeux vidéo, qui, lui, a profité, on peut le dire, Clément Le Saffre, de la période de crise.
Mario collecte les pièces dans les jeux et sa maison mère Nintendo amasse une fortune. Dire que le groupe japonais a profité des confinements de par le monde serait un euphémisme. Entre avril et juin, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, le double par rapport à la même période l'an dernier. Plus impressionnant encore, le bénéfice net a été multiplié par 6, des résultats mirobolants qui doivent beaucoup aux ventes de la console phare de Nintendo, la Switch. 5 millions d'unités écoulées en 3 mois, ça fait 60 millions depuis le lancement il y a 3 ans. Et puis il y a les jeux, et là le succès de Nintendo ces derniers mois tient en quelques notes de musique. Animal Crossing New Horizons, c'est le carton inattendu de l'année. 22 millions d'exemplaires vendus en seulement 4 mois. C'est plus que d'autres mastodontes de la Switch comme Super Smash Bros. Ultimate et Zelda Breath of the Wild, pourtant sortis respectivement en 2017 et 2018. Animal Crossing, simulateur de vie tout mignon où l'on doit créer une communauté idyllique sur une île déserte, a adouci le confinement de beaucoup de joueurs et fait aujourd'hui les beaux jours de Nintendo.
Effectivement, merci Clément Le Saffre.
Repas midi 44, la suite du journal Lionel Gougelot.
Trois jours après la catastrophe du port de Beyrouth, 16 fonctionnaires ont été placés en détention. Il s'agit de dirigeants du port qui vont devoir maintenant répondre de leur responsabilité dans l'explosion qui a fait, selon un dernier bilan, 149 morts et 5000 blessés. Il semblerait, Clotilde Mravko, que les autorités aient l'intention de faire toute la lumière sur l'origine du désastre.
Et bien sur le terrain, on sent que l'enquête s'accélère. Mercredi, le gouvernement libanais avait réclamé l'assignation à résidence de personnes responsables du stock de nitrate d'ammonium à l'origine des explosions. Et hier, au moins 16 fonctionnaires du port de Beyrouth ont été arrêtés. Ce sont des responsables du conseil d'administration, du personnel des douanes et des personnes qui étaient en charge de l'entretien et des travaux dans le hangar numéro 12, l'entrepôt où étaient stockées les 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui traînaient là depuis 2014 sans protection particulière. Est-ce que cela suffira à calmer la colère des Libanais? Rien n'est moins sûr. Hier, sur les réseaux sociaux, un hashtag dominait « Pendez-les » en référence aux dirigeants politiques libanais corrompus qui ont laissé traîner l'affaire et qui aujourd'hui se rejettent les responsabilités. Au Liban, tout le monde demande une enquête internationale. Les citoyens craignent que le système clientéliste et les alliances politiques ne permettent aux responsables de la catastrophe d'échapper à la justice.
Merci Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient. Clotilde le disait, ces derniers développements ne calment pas la colère des habitants de Beyrouth. Une manifestation contre la corruption du pouvoir en place a été dispersé à coups de gaz lacrymogène hier soir et un autre grand rassemblement est prévu demain samedi. Mais pour beaucoup de Libanais, les jeunes notamment, eh bien il n'y a plus d'espoir de changement dans le pays, alors ils songent à partir. Reportage Johanna Chabas.
Ce qui se passe malheureusement me pousse à partir parce que je ne vois pas d'avenir dans ce pays.
Kelly, étudiante en psychologie, attend avec impatience la fin de sa licence pour enfin demander un master en France. Elle envisage depuis longtemps de partir comme Sarah, 20 ans, pour qui l'explosion a été le coup de grâce.
Vous voyez des gens qui veulent vivre, qui se battent vraiment et galèrent pour ça. Et ils ont tout perdu en une déflagration. Mes rêves étaient d'avoir un emploi et un revenu stable, d'avoir une maison, de vieillir ici. Je n'ai pas le choix maintenant, je dois partir.
Une jeunesse face au mur de la crise économique et de la corruption qui sévit dans le pays. Selon Michel, cette accumulation de problèmes va créer des départs en masse.
On est arrivé à un point où on n'en peut plus de ce pays. C'est soit on le répare, soit on part par centaines. Mes parents m'ont dit, si tu pars, on viendra avec toi et on restera là-bas pour toujours. Ils sont prêts à vendre tout ce qui les rattache au pays, juste pour partir d'ici.
Cet employé de 26 ans pense à démissionner pour postuler à une université française et retrouver ses deux sœurs qui ont déjà fait le voyage jusqu'à Paris. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.
À l'étranger, toujours en Biélorussie, quand une mère de famille défie un dictateur. C'est bien la situation qui se profile à deux jours de l'élection présidentielle dans le pays. Alexandre Loukachenko dirige ce pays d'une main de fer depuis maintenant 26 ans et il doit faire face à une opposante qui monte. Elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya, mais rien ne l'a destinée à se retrouver sur l'avant-scène politique. Pierre Herbulot.
Des dizaines de milliers de personnes rassemblées devant une estrade, dessus une femme ordinaire, Svetlana Tikhanovskaya, devenue en moins d'un mois la figure de l'opposition biélorusse. Prof d'anglais de formation, Svet, comme la surnomme ses soutiens, est une mère au foyer de 37 ans dont la vie a basculé. Fin mai, son mari blogueur est arrêté par la police. Le président Loukachenko n'apprécie pas d'être qualifié de cafard. Svetlana réclame sa libération. Elle se présente à l'élection présidentielle par amour, dit-elle. Son profil séduit immédiatement, décrypte Olga Belova, professeure de sciences politiques à l'Université de Bordeaux.
Cette candidate, elle incarne en quelque sorte la modernité ou, si vous voulez, la société moderne biélorusse. C'est une femme, mère de deux enfants, une femme comme les autres. C'est une femme qui incarne aussi le désir de changement.
L'espoir d'une passation de pouvoir, gardé jalousement depuis près de 30 ans et la chute de l'Union soviétique par le président sortant Alexandre Loukachenko, coutumier des élections truquées d'après tous les observatoires. Svetlana Tikhanovskaya, sa jeune rivale, promet d'ailleurs comme première mesure, si elle est élue, l'organisation de nouvelles élections, libres cette fois.
Pierre Herbulot.
Il est midi 49.
On marque une pause et dans un instant, direction Turin, en Italie bien sûr, pour la Ligue des Champions. Et puis le ciel pour la nuit des étoiles. A tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
C'est la dernière marche pour l'accession au tournoi final de la Ligue des Champions ce soir pour l'Olympique Lyonnais. L'OL qui se frotte à un grand d'Europe, la Juventus Turin. Les Lyonnais l'avaient emporté 1-0 au match aller. Alors bien sûr, la Juve, c'est le phénomène Cristiano Ronaldo. Mais la vieille dame, comme on l'appelle, a aussi ses faiblesses. Et donc les Lyonnais, Cyril de la Morinerie, peuvent espérer.
Oui, la Juve est en perte de vitesse, elle s'est inclinée lors de ses deux dernières rencontres, mais surtout, sa légendaire défense prend l'eau avec 17 buts encaissés sur ses 8 derniers matchs. Fini le Catenaccio, l'ancien entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, prône un jeu offensif, quitte à bafouer les traditions maison. Et puis surtout, celui qui a été sacré meilleur joueur du championnat italien cette saison est incertain, le virevoltant Paolo Dybala, 17 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, souffre à la cuisse gauche. Il n'a pas repris l'entraînement collectif, ce qui donne évidemment beaucoup d'espoir aux Lyonnais et à sa star Memphis Depay.
On a joué quelques matchs et je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour faire le boulot. Je n'ai pas joué dans le dernier match, mais je les ai vus et je connais les qualités de la Juve et les joueurs qu'ils ont. Mais je crois en mon équipe, j'ai vu une grande équipe face à eux, on doit juste répéter ça.
Depay qui sera l'un des principaux atouts de l'OL ce soir. Le Néerlandais était absent au match aller. Après une opération au genou, le voilà de retour. Il a joué contre Paris en coupe. Depay a marqué tout de même 5 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Les Lyonnais pourront également écouter les conseils de leur entraîneur qui connaît parfaitement la Juve et le championnat italien. Rudy Garcia a en effet dirigé l'AS Roma et reste très apprécié dans la péninsule.
C'est vrai. Merci Cyril de la Morinerie à Turin pour Europe 1. Je précise évidemment qu'on suivra cette rencontre avec vous Cyril ce soir sur Europe en direct et en intégralité. Émission spéciale à partir de 20h avec Lionel Rousseau. On passe des étoiles de la Ligue des Champions à celles que vous pourrez observer dans le ciel à partir de ce soir pour la 30e édition de la Nuit des Étoiles. Donc l'occasion aussi de retrouver peut-être un peu de douceur en pleine canicule. Alors bien sûr, en fonction des différents sites d'observation, il y aura quelques règles à respecter compte tenu de la situation sanitaire lors d'Autriche. Mais dans ce ciel parfaitement dégagé, on peut dire que le spectacle sera au rendez-vous.
Hein. Ah oui, le ciel cette année est fantastique pour observer les étoiles et les planètes, même à l'œil nu. Alors le meilleur endroit pour voir la Voie lactée, c'est loin de la ville, loin de l'éclairage urbain, à la campagne ou au bord de la mer avec une vue dégagée. Mais partout, vous pourrez voir les planètes à plusieurs moments très précis de la nuit, dit Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie.
On voit Jupiter en début de nuit très très brillante, elle se lève à l'est, elle est vraiment très brillante, elle est suivie de Saturne. Et puis ensuite, on a la planète Mars et la Lune qui est à proximité. La planète Mars va être très haute dans le ciel. Elle va se lever vers minuit à l'est, elle monte. Et puis ensuite, si on a le courage d'attendre en fin de nuit, on peut profiter vraiment du maximum des étoiles filantes. Et puis de la planète Vénus, alors là, encore plus brillante, qui se lève vers 4h du matin. Et après, juste avant le lever du soleil, si on a une paire de jumelles, on voit très facilement aux jumelles la planète Mercure.
Alors, en raison de la situation sanitaire, évidemment, des clubs d'astronomie ont annulé des animations prévues en intérieur, mais en plein air, le plus souvent, c'est maintenu. Et en plus, cette année, des veillées aux étoiles, des balades en famille sont proposées sur le site de l'Association française d'astronomie afa.fr. Vous pouvez télécharger un programme avec des informations sur le ciel si vous voulez faire votre propre veillée aux étoiles en famille, au fond de votre jardin, avec par exemple des chaises longues et des couvertures.
Une bonne idée, effectivement. Merci, Lord d'Autriche. Il nous reste à voir la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Alors, Valérie Darmon, pas de surprise, bien sûr. Il y aura du soleil et de la chaleur. Mais vous attirez notre attention sur la chaleur qui va sévir également dans les nuits prochaines. Hein.
Ah oui, alors plusieurs nuits très chaudes à venir avec les maximales très élevées bien sûr, alors, mais moins tout de même qu'en 2019 et qu'en 2003, hein, ce qui ne nous empêche pas évidemment de faire le nécessaire pour ne pas en subir trop les conséquences. Alors surtout dans les 45 départements en alerte orange canicule, depuis le Pas-de-Calais jusqu'en Ariège, dans le Gers, la Haute-Garonne, on se dirige pour Paris pendant 6 jours consécutifs à plus de 35 degrés du jamais vu à part en 2003 depuis 1873. Il va donc faire sur ces départements orange entre 35 et 39 et dans le sud-ouest 41. Entre 31 et 35 en général sur les régions méditerranéennes, les Pyrénées, les Alpes, les régions du nord-est, c'est-à-dire Champagne, Alsace, Lorraine, Bourgogne et près de la Manche, et localement un petit peu moins sur les côtes. Alors je vous donne évidemment quelques maximales pour cet après-midi. Bien évidemment, vous le savez, c'est à l'ombre et sous abri. 41 annoncé à Angoulême, à Mont-de-Marsan, à Cahors et à Laval. 40 à Brive-la-Gaillarde, à Périgueux, à Bordeaux et à Agen. 39 à Toulouse, à Rennes et Châteauroux. 38 à Saint-Girons, Évreux et Chartres. 37 à La Rochelle, à Bourges et à Guéret. 36 au Puy-en-Velay et à Reims. 35 à Charleville, à Lille et Metz. 34 à Manosque et Besançon. 32 à Dunkerque. 30 degrés en Corse. 29 à Nice, 28 à Brest, 27 à Cherbourg. Et la chaleur qui va s'étendre aux régions de l'Est dès demain. Donc on le voit, on va s'habituer à ces températures-là pendant 6 jours. Pour le ciel, c'est grand beau temps partout, évidemment, sans un nuage, sauf sur les Pyrénées où le ciel est tout juste un petit peu menaçant en toute fin de journée sur l'ouest de la chaîne. En fait, on a une incertitude sur le moment où le temps va tourner aux orages et à la pluie en milieu de semaine prochaine seulement.
Bon, on verra ça avec vous. Merci Valérie Darmon.
Merci à vous Lionel.
À tout à l'heure.